Il ne suffit pas de vouloir une écologie antiraciste. On parle souvent des écologies décoloniales. On voit moins les écologies coloniales interroger leur propre colonialité. C'est ce qu'on va faire ici, en étudiant la colonialité dans le zéro déchet et les écologies de la sobriété. Thus Player. Le zéro déchet et les écologies de la sobriété véhiculent un impensé colonial passé inaperçu chez celles et ceux qui le défendent. J'essaye de le rendre explicite, facile à comprendre pour elles et eux. Universaliste, abstraite, désituée, l'approche zéro waste minore la diversité et les conflits, au risque d'être inefficace. Les spectres du paternalisme, de l'accaparement des ressources et de l'appropriation culturelle planent sur le mouvement. Paradoxalement, le zéro gaspillage est à la fois complètement politique et dépolitisant. Un constat qui vaut aussi pour mes propres textes sur le zéro déchet. Ce billet est le fait partie d'une série autour du zéro déchet comme zéro gaspillage. Voir tous les épisodes. Colonial n'est pas un compliment. Et si j'étais du mauvais côté? Si mon écologie était une de ces écologies coloniales qui s'ignorent? Plus j'y pense, plus c'est crédible, plus je creuse, plus ça devient évident. Dans ce billet, je tente de conscientiser la dimension coloniale du zéro waste et des écologies similaires. Pour ça, je vais dérouler les implicites du point de vue zéro déchet et montrer ce qu'ils ont de problématique. L'idée est de partir du zéro gaspillage et d'arriver à la décolonialité. J'essayais de baliser un parcours qui aide mes camarades écologistes à voir en quoi ils et elles sont concernés par la critique des coloniales, de tracer un chemin que d'autres pourraient emprunter sans forcément connaître cette pensée en amont. Je pars du zéro gaspillage parce que c'est là où je suis, ce que je connais le mieux. Mais la colonialité que je découvre concerne l'écologie de façon beaucoup plus large. Des écueils et une méthode. Mais il y a des écueils. En tant qu'Européen blanc issu d'une famille de colons 1, je suis mal placé pour comprendre les questions de colonialité et de racisme. Bénéficier davantage dans un système de pouvoir produit de l'ignorance chez les dominants chez, une incapacité à reconnaître des choses évidentes du point de vue des dominés 2, à supposer que je surmonte cet obstacle, je ne suis toujours pas légitime. En abordant ces sujets, je risque d'invisibiliser la voix de personnes plus compétentes que moi et sur qui s'appuie ma réflexion. Même si j'identifie des limites réelles à l'approche zéro gaspillage, je ne suis pas expert en décolonialité. Alors pourquoi parler du sujet? D'abord parce qu'on n'avancera jamais si j'attends de me sentir à l'aise pour discuter de racisme et de colonialité. Mon écologie est d'une blanchité aveuglante. Étudier sa colonialité est une façon d'adresser une partie du problème. Ensuite, parce que je ne prétends pas produire un discours scientifique ou exhaustif, je présente un témoignage, un parcours de conscientisation personnelle limité et imparfait. Dans les paragraphes qui suivent, j'aborde un à un des aspects du zéro déchet. Pour chaque aspect, j'émets une critique, puis je la rattache à une facette de la colonialité. C'est cette dernière qui donne une unité aux défauts présentés ici. Nous, d'humanité générale. Préserver nos ressources, changer nos modes de production, réduire nos déchets. Les discours zéro waste utilisent régulièrement le possessif « nos ». Ce n'est pas un usage fréquent, mais il n'est pas anecdotique. On peut même résumer l'approche zéro gaspillage à « ne pas faire de nos ressources des déchets 3 », je souligne. Mais qui est derrière ces possessifs ? À quel « nous » renvoient ces expressions? Je ne crois pas qu'ils ciblent un groupe limité de personnes physiques, des gens qu'on pourrait compter. C'est un « nous » général qui désigne un ensemble plus abstrait. Selon moi, il englobe toute l'humanité. Puisque le zéro déchet pense à l'échelle mondiale, qu'il s'intéresse à l'intérêt commun et est anthropocentré, son horizon semble bien être celui de l'humanité. J'en fais l'expérience dans mes propres textes, quand j'écris « nos besoins », « notre situation » ou « notre planète » dans les articles précédents. Un point de vue de nulle part. Mais les écologistes qui tiennent ces discours en France ne représentent pas toute l'humanité. Ils et elles sont situés sur toute une série de plans, social, économique, géographique. Avec ce « nous », ils endossent un point de vue désitué et désincarné qui ne correspond à personne. Ce faisant, ils invisibilisent leur propre situation d'énonciation concrète et oublient son impact sur leur façon d'agir et leur rapport au monde. Dans un mouvement inverse, ils invisibilisent la pluralité des voix et la diversité des points de vue au sein des groupes humains, en prétendant que leur voix est universelle, capable d'exprimer celle de l'humanité, ces écologistes minorent la place des désaccords, des conflits et des hiérarchies entre êtres humains. Ce double mouvement n'est possible que pour des personnes habituées à être légitimes, écoutées, à bénéficier davantage au sein d'un système de pouvoir. Elles ne perçoivent pas ce que leur position a de singulier et ne s'étonnent pas que leur voix puisse énoncer des normes valables partout. Cette attitude semble correspondre à une facette de la colonialité qui véhicule un universalisme, voire un universalisme blanc. L'illusion d'une humanité unie. Tout se passe comme si l'appartenance à la même espèce créait un lien fort entre les humains, que de ce simple fait, chaque membre de l'espèce avait des intérêts communs ou convergents. De quoi toutes et tous nous réunir dans le même groupe, l'humanité. Les êtres humains auraient collectivement un intérêt commun à maintenir un climat stable et une biodiversité abondante. Chacune aurait une bonne raison, même indirecte ou lointaine, d'agir dans ce sens. Par exemple, si je ne veux pas souffrir d'une chaleur mortelle lors de canicules intenses et fréquentes, ou si j'ai peur que des guerres pour les ressources en eau, en terre fertile, en ressources énergétiques ou en métaux adviennent sur mon territoire. Mais est-ce vraiment ce qu'on constate? Par tous les intérêts divergents, y compris dans des petits groupes, qui a vraiment les mêmes intérêts que sa famille, ses amis ou ses collègues? Plus le collectif est large, moins on trouve d'unité, d'uniformité et d'intérêts partagés. Les liens qu'on y découvre sont faibles, indirects et peu structurants. Chercher des intérêts convergents et significatifs à l'échelle de l'humanité semble largement illusoire. D'autant que certains ne sont même pas d'accord sur les limites de ce groupe. Qui compte comme un être humain? Quand certains déshumanisent leurs ennemis en prétendant qu'elles sont des vermines, que leur génocide n'en est pas un puisqu'elles ne sont même pas humains, qu'on peut en faire des esclaves, les dominer et les tuer comme des animaux, puisqu'elles ne sont pas comme nous. Une faiblesse militante. Pour la géographe Rachel Borghi, croire que nous sommes tous dans le même bateau est un des symptômes de la colonialité, des colonialités un privilège, pas la 110. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Les écologies de la sobriété semblent croire que nous partageons la même situation critique, tous embarqués dans un seul bateau planète. Cette vision explique en partie l'insistance du zéro gaspillage sur la non-violence et la coopération. Le mouvement pousse à voir ce qui rapproche les personnes, ce qu'elles ont à gagner en collaborant. Il regarde l'intérêt général, celui qui bénéficie à tout le monde, sans considération de race, de classe, de genre, et ainsi de suite. Il passe un peu vite ce que chaque groupe a à perdre. Il ignore trop facilement les inimitiés profondes, les conflits irréconciliables et les rapports de force qui traversent les groupes humains. Cette attitude constitue une véritable faiblesse militante. Faute d'identifier les tensions et les rapports de force, on risque d'être démuni lorsqu'ils s'imposent face à nous. On est moins capable de les exploiter, de savoir en jouer pour faire avancer ses objectifs. Au contraire, on risque de les subir en se demandant sincèrement pourquoi les parties prenantes refusent de coopérer. Le spectre de l'accaparement des ressources. Plus profondément, un tel point de vue active un risque d'accaparement des ressources. Si on pense parler au nom de l'humanité et qu'on croit que tous les êtres humains ont objectivement des intérêts convergents, il n'y a plus de conflit sur les ressources. Où qu'elles soient sur Terre, les ressources naturelles sont nos ressources. Elles, nous, appartiennent collectivement. En pensant un objet aussi large que l'humanité, on évacue la possibilité de conflits de propriété ou d'usage sur les ressources naturelles. L'humanité est comme seule face à la planète. Ses divisions internes n'ont plus de pertinence. Pour assurer sa survie, l'humanité pioche librement dans les ressources naturelles, qui sont au fond un patrimoine commun, quelque chose qui appartient à tout le monde. Dans cette perspective, je peux dire depuis la France que j'ai des droits 4 sur la forêt amazonienne au Brésil, car elle produit un air que je respire et abrite d'une biodiversité dont j'ai besoin. Cette forêt n'appartient pas vraiment à celles et ceux qui vivent à proximité, qui y ont des titres de propriété, ou même à l'État brésilien. C'est un actif stratégique pour l'humanité entière, qui, nous, appartient à tous et toutes. Sauf que rien ne va là-dedans. À supposer qu'on ait tous et toutes des droits sur certains biens communs, ça ne veut pas dire qu'on ait des droits équivalents. La forêt amazonienne m'est peut-être utile dans un grand calcul mondial très abstrait, Mais ce que j'en tire est infime comparé à ce qu'elle apporte à une personne qui vit sur place, à son contact direct et régulier. Les ressources naturelles sont ancrées dans des territoires, elles font partie d'écosystèmes qui incluent les humains qui vivent près d'elles. Tout le monde n'est pas aussi légitime à discuter et décider de leur avenir. N'importe qui ne peut pas dire que ce sont ses ressources sans jamais avoir été en contact avec. Une attitude de colon. Croire l'inverse, c'est faire preuve d'une arrogance crasse. Adopter l'attitude d'un colon qui, arrivant de nulle part, dit partout « ceci est à moi » sur des terrains exploités par d'autres. Il faut une assurance démesurée, un sentiment de légitimité totale pour dire « nos ressources » en parlant de celles qui sont littéralement à autrui. Les écologistes qui adoptent ce point de vue ne semblent pas conscientes que leur vision fait écho à des logiques prédatrices qui, elles aussi, se sont parées de discours positifs et altruistes à leurs époques. Après la mission civilisatrice, la mission écologique pourrait prendre le relais. On ne viendrait plus exploiter les richesses des colonies pour l'Europe, mais protéger les ressources naturelles pour l'humanité. Un risque d'autant moins théorique qu'on a déjà évoqué les ambiguïtés et l'utilitarisme du zéro déchet. L'impensée coloniale se manifeste aussi par une absence d'inversion des rôles. On pense le monde comme plein de ressources pour nous, mais on ne pense jamais chez soi comme une ressource pour les autres. Quand on parle de l'épuisement des ressources en sable, on n'imagine pas renoncer aux plages françaises pour satisfaire les besoins d'autres pays qui veulent fabriquer du béton. Le « nous » d'humanité générale éclate en morceaux. Son caractère fictif devient manifeste. Mis face à une prédation qui touche à des ressources situées sur notre territoire, nous, Françaises, cessons de considérer que tout est un bien commun et que nos intérêts se rejoignent avec ceux du reste du monde. Les crises du climat, de la biodiversité et de l'eau n'ont pas disparu, mais notre approche ne permet plus d'y pallier. Une approche individualiste et dépolitisante. Un autre défaut de l'approche zéro gaspillage est son aspect individualiste. Le zéro waste veut prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, mais sa méthode d'action consiste à ne pas consulter les personnes. On s'informe sur ce qui leur arrive, sur leurs conditions de vie et de travail, mais on n'entre pas en contact avec elles. On veut agir pour ces personnes, mais sans devoir leur parler. Je vois trois dimensions à cette attitude. D'abord, une telle discussion est matériellement impossible. Il y a trop de parties prenantes dans la production mondiale. L'ambition de toutes les prendre en considération est vouée à l'échec. Ensuite, une écologie qui imagine prendre en compte l'intérêt de toute l'humanité n'a pas besoin de parler aux autres. Elle croit pouvoir se projeter dans leur situation et connaître leurs intérêts. Enfin, un certain mépris de classe n'est pas à exclure. On n'a pas envie de parler à celles et ceux qu'on estime inférieurs. Les fréquenter rend visible la domination et les injustices dont on profite. Depuis ma situation individuelle, je tente d'agir pour les autres, mais sans construire de liens explicites, de relations bidirectionnelles. C'est tout l'inverse d'une approche collective et politique. Certes, la matière et le cycle de vie des objets créent un lien invisible entre les personnes, mais il en faut plus pour créer des solidarités concrètes, pas juste des relations économiques entre clients et fournisseurs. Alors que le zéro gaspillage est un projet politique, dont le concept central est intrinsèquement politique, j'ai l'impression qu'il a du mal à dépasser une approche individuelle, à construire de l'action collective et des solidarités. Il reste en ça prisonnier d'une époque néolibérale où les modèles mentaux partent de l'individu, parfois y restent et souvent y retournent. Un risque de paternalisme. L'approche zéro gaspillage comporte aussi un risque de paternalisme, lien en anglais. Si on définit l'intérêt d'autrui sans échanger avec lui, sans écouter sa voix et ses revendications explicites, on va décider seul de ce qui est bon pour lui, de ce qui correspond à ses besoins. On va considérer comme dans son intérêt des choix que la personne rejetterait et rejeter des choix qu'elle jugerait positifs pour elle. C'est précisément ce qu'on appelle du paternalisme, agir dans l'intérêt d'une personne, contre la volonté explicite de cette personne elle-même. Pensez aux travailleurs et travailleuses de la décharge de déchets électroniques d'Agbogbloshie au Ghana, qui sont interviewés dans le documentaire « Welcome to Sodom ». Elles expliquent que travailler là est la meilleure situation qu'elles ont trouvée, que c'est pire ailleurs. Pas sûr qu'elles soient enthousiastes à l'idée d'une réduction globale des déchets. Certes, leur environnement serait moins pollué, leur santé moins en danger, etc. Mais leur source de revenus disparaîtrait. Une écologie qui minore les désaccords, La diversité des points de vue et les conflits possibles montrent encore une fois ses limites. Ce risque de paternalisme rejoint la question de la colonialité. Les Européens et les Européennes ont une longue tradition de hiérarchisation des races, qui met les blancs en haut et les personnes colonisées non blanches en bas. Les personnes qu'on envahit, domine et tue sont présentées comme incapables de savoir ce qui est bon pour elles. Mais le colonisateur sait. Il est prêt à se sacrifier pour l'intérêt de ses peuples, qui ne lui rendent pourtant pas. Un tel point de vue s'exprime notoirement dans le poème raciste et colonialiste de l'écrivain Rudyard Kipling, Le fardeau de l'homme blanc. Mais n'est-ce pas quelque chose de similaire qu'on entend ? Quand j'écris dans l'article précédent que le zéro gaspillage consiste à mettre son intérêt direct en retrait, au profit de celui d'une personne plus loin dans la chaîne de production, le mépris s'est peut-être effacé, mais le discours sur le sacrifice altruiste est toujours là. Une position centrale qui interroge. Avec la sobriété, les écologistes occidentaux trouvent une narration qui leur donne une place centrale, positive et active dans la lutte contre les injustices climatiques. Ce sont elles et eux qui proposent d'engager les sociétés contemporaines vers un futur désirable. Et elles produisent des idées et expérimentent des pratiques qu'elles appellent à devenir la norme, réemploi, réparation, etc. À la fois innovantes, précurseurs, bienveillantes, ces personnes n'ont presque rien à se reprocher et plus de raison de se sentir coupables. Mais on devrait interroger une narration qui vous donne la meilleure place, légitime vos choix et vos actions, sans jamais leur trouver d'aspect négatif. Un tel discours semble trop parfaitement bénéficier à celui ou celle qui s'y retrouve pour ne pas éveiller un soupçon. Je peine à ne pas voir dans la sobriété une sorte de version non interventionniste du « Sauveur blanc 5 ». Au lieu de prendre l'avion pour aller aider des enfants pauvres dans un pays du Sud, on agit à distance, par des effets indirects, incertains et à moyen terme. On s'épargne l'aspect grossièrement raciste et paternaliste d'un « tourisme humanitaire » qui intervient sur place, perturbe les dynamiques locales et laisse les conséquences à gérer à d'autres. Mais cet horizon d'agir de chez soi pour les dominer me semble prolonger des logiques similaires. On passe au sauveur, teinte sans contact, qui sauve par un ruissellement de sobriété. On reste dans l'idée de porter secours aux victimes d'un système dont on est l'un des principaux bénéficiaires, un système construit par son pays, ses institutions, voire ses ancêtres, et qui nous fabrique par notre éducation et nos socialisations. Des logiques d'appropriation. D'autant que les écologistes de la sobriété font preuve d'attitudes questionnables, qui tranchent avec leur posture altruiste. Si j'ai les moyens d'acheter neuf, mais que je choisis l'occasion, je fais une excellente affaire, bien au-delà de l'intention écologique. On peut voir ça comme une façon pour un riche de récupérer des ressources peu chères qui auraient sinon bénéficié à d'autres catégories sociales. En glanant Emmaüs et les recycleries solidaires, les riches écolos s'introduisent dans des espaces qui ne leur étaient pas destinés au départ. Leur pouvoir économique peut même déstabiliser les dynamiques en place. Emmaüs s'alarme de la baisse de qualité des dons reçus, les objets de valeur étant détournés par des nouveaux circuits d'occasion orientés vers le profit ou la spéculation, vinted, néo-friperies, vintage, etc. Par ailleurs, la façon dont les écologistes de la sobriété se réapproprient des pratiques antérieures questionne. Éviter le gaspillage, emprunter, plutôt qu'acheter, composter, réparer, consigner, ces pratiques n'ont pas été inventées par le zéro déchet. L'approche zéro waste leur donne surtout une nouvelle justification, une cohérence d'ensemble, et les repositionne au sein de la société. Des pratiques anciennement ringardes, honteuses ou marginales deviennent soudainement à la mode, valorisées et centrales quand des privilégiés s'en emparent. L'histoire de ces usages est effacée et les écolos les récupèrent comme marqueurs de leur groupe social. Une logique qui rappelle celle de l'appropriation culturelle. Quand un groupe dominant récupère des éléments d'une culture infériorisée, les vide de leur signification initiale et en tire des bénéfices au détriment du groupe infériorisé. Une vision très abstraite. Ma dernière critique porte sur le caractère très abstrait du zéro gaspillage. Les concepts centraux du mouvement présentent un fort niveau d'abstraction. J'ai détaillé le cas du panneau de gaspillage, mais on peut aussi évoquer les idées de bourse des ressources ou de bain matière. Une ressource n'est pas vraiment une réalité concrète. Le mot désigne la chose prise comme moyen d'un objectif, intégré à un calcul utilitaire qui est en fait une variable, un élément abstrait. La matière, elle-même relève d'une abstraction. Ce n'est pas un composé précis, de l'aluminium, de l'argile, etc. Mais la matière, en général, détachée de toutes les caractéristiques qui permettent d'identifier de quoi on parle exactement. Les dimensions géopolitiques, économiques et sociales liées à une ressource naturelle particulière, ancrée dans un territoire, sont impensées. Paradoxalement, le zéro déchet insiste sur la matérialité du monde via des concepts qui mettent à distance le réel concret, la matière unique et spécifique. Le zéro déchet mobilise aussi ce que Léa, philosophe non-binaire Timothy Morton, appelle des hyper-objets. L'humanité, la planète, le climat, les générations futures. Ces objets s'inscrivent dans un espace gigantesque et une temporalité qui dépasse la vie humaine. Ils sont impossibles à voir ou toucher. Quand on parle de l'humanité ou de la planète, on cible des choses trop grosses pour être appréhendées par l'esprit humain. Ce sont des outils intellectuels inefficaces pour agir, qui mènent à une impasse politique. Cette fois-ci, le lien à la colonialité m'apparaît moins clairement. Je saisis qu'il y a un lien entre ces abstractions et la modernité intellectuelle, et que la modernité est intimement liée à la colonisation. J'ai déjà parlé de la dimension calculatoire, optimisatrice et utilitariste du zéro déchet, mais la connexion précise avec la colonialité m'échappe 6. Balayé devant sa porte. Bien sûr, tout ce que je dis dans ce billet vaut aussi pour mon travail et les articles précédents. Mes critiques concernent autant le zéro déchet en général que la manière spécifique que j'ai de l'aborder. La colonialité que je reconnais dans le zéro waste ne m'est pas extérieure. Et encore, ma position sociale et raciale font que je passe forcément à côté de certaines choses. Je sais que mes textes sont marqués de colonialité et de blanchité, par des aspects que je ne perçois pas, ou mal. Alors que la blanchité de l'écologie est le point de départ de ma réflexion, j'ai échoué à penser directement le lien entre suprématie blanche et sobriété. Cette réflexion sur la colonialité pourrait n'être qu'un détour, un moyen de ne pas aborder le problème en en traitant un autre. Dans l'impasse. Le système économique que le zéro gaspillage nous fait voir comme absurde a une histoire. Il est l'héritier de la colonisation du monde par l'Europe depuis le XVe siècle. Il naît d'un processus violent d'exploitation et de dépossession de personnes non blanches par les Européens. Son racisme n'est pas un aspect extérieur ou anecdotique. Une écologie qui veut sérieusement remettre en cause ce système ne peut pas être composée que de personnes blanches. Au-delà de ces bornes bonnes intentions, 7. Une écologie blanche est condamnée à reproduire des logiques de domination raciale et coloniale. En ne prenant pas en compte ces dominations, elle prolonge les façons de faire et de penser qui ont conduit à la crise climatique. Mais il ne suffit pas de vouloir une écologie décoloniale et antiraciste. Il faut comprendre le problème avec l'écologie qui ne l'est pas. C'est ce que j'ai tenté de faire dans cet article malgré ma compréhension limitée de ces sujets. Le risque d'être imprécis, insuffisant ou même erroné m'a semblé plus faible que celui de ne pas en parler, ne pas ouvrir la discussion. Et pour qu'elle continue, je vous invite à vous intéresser à celles et ceux qui m'ont permis de recoller les morceaux du puzzle, de reconnaître un motif colonial dans le zéro gaspillage. Ils et elles ne parlent jamais de zéro déchet, rarement d'écologie, mais sans leurs apports, cet article n'existerait pas. En podcast. Kif Taras, Rokaya Diallo, Grace Lee. Le Paris Noir, Kevin Donat. Code Noir, Vincent Hazard. Des colonisations, groupe de recherche sur les ordres coloniaux. Décolonial voyage, Sourour. Décoloniser la ville, Chahut Média. Isolation thermique, Coordination Action Autonome Noire. Je ne suis pas raciste, mais Donia Ismail. En livre un article. L'ignorance blanche, Charles W. Mills. Décolonialité un privilège, Rachel Borghi. Amour silencié, Christelle Murula. La charge raciale, Douce Dibondo. La domination blanche, Solène Brun, Claire Kosker. Le racisme est un problème de blanc, Rémy Edo-Lodge. Mécanique du privilège blanc, Estelle Depri. Vos racismes, Nicolas Kaiser-Brill. En vidéo, Histoire crépue. Note.